Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer pour l'éternité. Pour l'éternité, je vais t'adorer.
Ce n'est pas parce que Dieu détruit la ville des hommes que Dieu rejette le monde. Dieu veut au contraire le salut de l'humanité. Il prononce un jugement sur le fait que les hommes ont voulu créer cette ville sans Dieu. Je disais tout à l'heure, l'histoire de l'homme, elle commence dans un jardin et elle s'achève dans une ville. Et nous avons vu que la ville, elle n'a pas bonne presse dans la Bible. Et voyez-vous, il y a quelque chose d'assez extraordinaire ici. C'est que Dieu construit avec les hommes. Dieu laisse les hommes conduire leur histoire librement et il va diriger cette histoire. Lorsque le peuple d'Israël, à l'époque de Samuel, a demandé à Dieu un roi, ce n'était pas la volonté de Dieu de lui donner un roi. Et Samuel s'est opposé de toutes ses forces à cette demande du peuple parce qu'il était conscient que ce n'était pas la volonté de Dieu. Et Dieu lui dit, laisse-les faire, ils veulent un roi, donne-leur un roi, mais c'est moi qui vais leur donner un roi. Et voyez-vous, de cette demande qui était contre la volonté de Dieu, Dieu va faire surgir David et par David le Messie. Et le Messie sera un roi. De la même manière, ce n'était pas la volonté de Dieu que l'homme vive dans une ville. Mais comme l'homme a voulu construire une ville, il a dit, d'accord, je construis une ville, mais c'est moi qui la construis, j'en suis l'architecte et le constructeur. Je vais vous donner ma ville, comme j'ai voulu vous donner mon roi. Vous voulez un roi, d'accord, je vous donnerai un, mais celui que j'ai choisi. Vous voulez une ville, d'accord, je vous la donnerai, mais ce ne sera pas Babylone, ce sera Jérusalem, celle que moi je vais construire comme je l'entends. Mais je la construis avec des matériaux qui sont les matériaux que vous me fournissez. Et Paul dit ceci aussi aux Corinthiens, il dit ceci. On parlait de ce fondement tout à l'heure, et il dit maintenant chacun construit sur ce fondement. Et vous pouvez construire ce fondement avec de l'or, des pierres précieuses, des perles, ou avec du chaume, du bois, et toutes choses qui vont flamber au jugement du dernier jour. Alors que chacun prenne garde à la manière dont il construit. Et voyez-vous, c'est ça la gloire des nations. On peut construire aussi, on peut traduire aussi par la gloire des païens que nous sommes. Ça veut dire qu'au dernier jour, Dieu jugera nos vies. Non pas pour le salut, car si nous avons mis notre espoir en Jésus, nous sommes sauvés. Mais la valeur de nos vies. Paul dit ceci, ce qu'est l'œuvre de chacun, le feu du dernier jour la rendra manifeste. Si l'œuvre de quelqu'un mérite d'être retenue, il recevra une récompense. Sinon, il perdra sa récompense. Lui sera sauvé, mais comme au travers du feu, il n'aura rien. Il arrivera dans la Jérusalem céleste les mains vides. Mais celui qui aura construit sa vie avec des matériaux nobles, de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, eh bien, il rentrera avec ses biens, cette gloire, c'est ça sa gloire, ce qui fera ta gloire au dernier jour, quand tu te présenteras devant Dieu. Comme les serviteurs dont il est question, l'un qui avait reçu 5 talents qui dit, « Je t'apporte 10 talents, c'est ma gloire. » Tu vois, tu m'avais donné 5 talents, je les ai fait fructifier. Je suis fier de t'apporter ça. Alors le Seigneur dit, ça rentrera dans la Jérusalem céleste. On y apportera la gloire des païens. Et puis il y aura ceux qui auront tout perdu. Arrivons les mains vides, j'ai rien à t'apporter. Ce ne sera pas la gloire, ça sera la honte. Comme je le disais, je veux vous saluer dans le nom du Seigneur et vous souhaiter aussi Shabbat Shalom, puisque c'est le Shabbat ce soir qui commence en Israël, pas seulement d'ailleurs là-bas, mais un peu partout, bien sûr. Et donc, nous avons cette possibilité encore ce soir d'ouvrir la Sainte Parole de Dieu. La conférence qui a été annoncée, elle a été sous ce titre « Une histoire de deux villes, Babylone et Jérusalem ». Et pour introduire cette réflexion ce soir, j'aimerais que nous fassions quelques lectures. Tout d'abord dans le livre des psaumes, et nous lisons d'abord au psaume 122. Psaume 122, qui est un des cantiques des pèlerinages ou des montées, si vous préférez, selon les traductions auxquelles vous vous référez. Donc, cantique des montées de David. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel. Nos pieds se sont arrêtés dans tes portes, Jérusalem, Jérusalem, toi qui es bâti comme une ville, qui forme un ensemble bien uni. » Nous faisons une deuxième lecture maintenant dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 54 et au verset 11. Oui, verset 11. Ésaïe 54, verset 11. Malheureuse battue par la tempête que nul ne console, voici, je garnirai tes pierres de stuc, je te donnerai des fondements de saphir. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarbouc et toute ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la prospérité de tes fils. Deux autres lectures maintenant, cette fois-ci dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Galates tout d'abord, au chapitre 4, et nous lisons au verset 21. Galates, chapitre 4 et verset 21. Il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave fut engendré selon la chair et celui de la femme libre en vertu de la promesse. Il y a là une allégorie, car ces femmes sont deux alliances. L'une, celle du mont Sinaï, qui est enfante dans l'esclavage, c'est Agar. Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle, car elle est dans l'esclavage avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est elle qui est notre mère. En effet, il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes pas, éclate de cris de joie, pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé de douleur, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux de ceux de la femme qui a un mari. Et un dernier texte maintenant dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11 et au verset 10. Déjà, nous pouvons lire au verset 9. C'est par la foi qu'Abraham, donc, vint s'établir dans la terre promise comme dans un pays étranger, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers avec lui de la même promesse. Car il attendait la ville, la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est le célèbre romancier anglais Charles Dickens qui a écrit un roman célèbre outre-Manche qui porte ce nom, A Tale of Two Cities, une histoire de deux villes. Ce titre que Dickens a donné à son roman pourrait aussi résumer le message de la Bible tout entière. La Bible aussi est une histoire de deux villes. Et les sages d'Israël ont dit, dans le monde, il y a seulement deux villes, Babylone et Jérusalem. Babylone, c'est la cité des hommes. Cette cité qui englobe le monde entier. Et cette cité qui devient aujourd'hui ce que l'on appelle le grand village mondial. Et en face de Babylone, il y a Jérusalem, la cité de Dieu, la cité céleste. Et toujours ces mêmes sages ont dit ceci, Le propre de ces deux villes, c'est qu'elles ne peuvent pas exister ensemble. Quand l'une existe, l'autre est en ruine. Et quand l'autre est en ruine, la première existe. Et on pourrait prendre toute la Bible et constater justement comment ces deux villes sont toujours en opposition depuis les origines jusqu'à la fin, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. L'histoire de l'homme commence dans un jardin, le jardin d'Éden. Et lorsque l'homme a péché, il est exilé de ce jardin et le premier meurtrier de l'histoire, Caïn, qui a tué son frère, est le premier qui construit une ville. Et par conséquent, la construction d'une ville est déjà une manifestation d'une forme de révolte contre Dieu. D'ailleurs, le mot « ville » en hébreu, « ir », a la même racine que le mot « malédiction ». Une ville, c'est finalement quelque chose sur laquelle repose la malédiction de Dieu. Et lorsque l'humanité, échappée du déluge, se met en route, elle va reconstruire une ville comme l'avait fait Caïn au commencement. Et cette ville, elle va lui donner le nom de Bab-Illin, la porte des dieux, Babylone en grec, Babel, Babel en hébreu. Et Dieu intervient, Dieu descend pour empêcher les hommes de construire la ville, une ville qui engloberait le monde entier. C'est-à-dire une ville, pour reprendre ce que nous disions tout à l'heure, qui serait déjà un grand village mondial. Dieu intervient, il descend, il confond le projet des hommes, d'où le nom de Babel en hébreu, vient du mot bilboul, bouleversement, confusion. Et les hommes cessent de construire la ville. Or, nous voyons que l'histoire humaine, c'est toujours le vieux rêve de Babel. Les hommes ont toujours ce rêve de construire une civilisation mondiale. Une civilisation qui engloberait toute l'humanité. Et une civilisation d'où Dieu serait exclu. Car Babylone, Babel, c'est l'endroit d'où Dieu est exclu. Dieu n'y a pas sa place. Et les hommes, à toutes les époques, ont essayé de construire Babel. Et finalement, jusqu'à maintenant, ils n'ont jamais réussi. Toujours, Dieu est descendu, comme il l'avait fait dans la première Babel, pour arrêter le dessein des hommes. Et quand Dieu intervient pour empêcher les hommes de construire Babel, c'est lui qui construit une autre ville. Et cette autre ville, c'est Jérusalem. Il a d'abord fallu que Babel soit détruite pour que Dieu puisse construire Jérusalem. Et c'est alors justement que la civilisation babylonienne, qui était une des plus grandes et des plus importantes civilisations de l'Orient ancien, connaît une période de déclin incompréhensible pour les historiens. C'est dans cette période que David s'empare de Jébus, la cité de Jébus, et qu'il la nomme Sion, Jérusalem. Jérusalem devient alors le trône de Dieu, l'endroit où Dieu va étendre le sceptre de sa puissance. Et cela n'est possible que parce que Babylone est en ruine. Et c'est sous le règne du fils de David, son successeur Salomon, que Jérusalem va connaître sa plus grande période de gloire. Jérusalem, c'est pour la Bible un synonyme aussi de tout Israël. Jérusalem incarne, représente le peuple d'Israël, la nation, la terre d'Israël tout entière. Et Salomon parvient à réaliser un projet unique dans l'histoire, créer un empire qui va de l'Euphrate jusqu'au Nil. Encore une fois, c'est rendu possible parce que Babylone est en ruine. Babylone connaît cette période de déclin inexplicable et inexpliqué à cette période. Et puis, Babylone renaît de ses cendres. Et on assiste à ce mouvement où Babylone est en train de ressurgir et Jérusalem est en train de décliner. Et quand Babylone a à nouveau atteint son apogée, sa puissance d'antan avec le roi Nebuchadnezzar, en 587, ce roi, avec toutes les armées de Babylone, monte contre Jérusalem et l'anéantit. Jérusalem est détruite et ses habitants sont dispersés sur les bords des fleuves de Babylone, comme le dit le psaume 137. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions. Et c'est là que le psaume se termine par cette parole, « Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie. » Dans cet exil à Babylone, alors que Jérusalem est en ruine, le peuple d'Israël n'oublie pas Jérusalem. 70 ans plus tard, selon les prophéties qui avaient été prononcées, notamment par le prophète Jérémie, le roi Cyrus de Perse détruit Babylone. Et la destruction de Babylone, la prise de Babylone par Titus est l'événement qui permet le retour des exilés à Jérusalem et la reconstruction de Jérusalem par Ezra et Néhémie. Voyez-vous, il avait fallu qu'à nouveau Babylone soit détruite pour que Jérusalem puisse être reconstruite. Et puis Jérusalem va subsister jusqu'au moment où surgit une deuxième Babylone, Rome. Rome, qui se considère elle-même d'ailleurs comme l'héritière de cette grande cité qu'était Babylone, et les sages d'Israël ont considéré que Rome est une résurgence, une résurrection justement de Babylone. Rome, qui va reprendre le vieux rêve de Babel, créer un empire universel, qui serait uni par les mêmes lois, par les mêmes langues, par les mêmes coutumes, par la même religion, par le même culte de l'empereur. C'est le vieux rêve de Babel qui ressurgit avec Rome. Et alors, à partir du moment où Rome récupère à son profit cet héritage de Babylone, alors le conflit avec Jérusalem est inévitable. Et en 70 après Jésus-Christ, la nouvelle Babylone, Rome, monte contre Jérusalem comme Nebuchadnezzar l'avait fait 6 siècles plus tôt. Et à nouveau, le même drame se reproduit. Babylone détruit Jérusalem. Et à nouveau, les habitants de Jérusalem sont dispersés. Et d'une certaine manière, nous en sommes là. Et c'est parce que justement Jérusalem est en ruine que la civilisation des hommes peut se manifester, peut grandir, et que peut prendre forme à nouveau le vieux rêve de Babel. Et alors justement là nous arrivons, c'est un très très rapide survol que je fais bien sûr, nous arrivons dans le dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse. Et là, nous arrivons dans les derniers chapitres de ce livre, 17-18, et que voyons-nous ? Rome, Babylone, ressuscité. Au comble de sa puissance. Et là, cette cité orgueilleuse remplit toute la terre. La terre tout entière est sous la domination de Babylone. Le vieux rêve de ceux qui étaient au commencement, de ceux qui ont construit la première Babylone du livre de la Genèse, est accompli. Enfin, cette Babylone qui n'avait jamais été achevée, nous la voyons achevée maintenant. Et elle dit, je suis reine, je suis maîtresse. Je ne serai jamais veuve, je ne serai jamais privée d'enfant. Et pendant ce temps, bien sûr, Jérusalem est en ruine. C'est la condition pour que Babylone puisse avoir cette gloire et cette puissance. Mais voilà, le Seigneur prononce ici une sentence sur Babylone. Et cette ville qui disait « Je suis maintenant ici pour l'éternité », le Seigneur dit « En une heure, ton jugement viendra ». Et nous assistons à la fin de ce chapitre 18 du livre de l'Apocalypse à l'effondrement, la destruction définitive cette fois-ci de Babylone, de cette civilisation humaine orgueilleuse avec sa technologie, avec sa science, avec son arrogance, son orgueil et sa révolte contre Dieu. Et lorsque Babylone est détruite, la grande Babylone, le mystère, nous dira l'apôtre Jean, alors le voyons à une autre révélation. Il voit à nouveau Jérusalem. Mais la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, sur une terre renouvelée et dans un ciel nouveau, d'un ciel nouveau. Et voyez-vous, pour que cette Jérusalem puisse maintenant descendre du ciel, il fallait que la cité terrestre, la cité des hommes, soit anéantie, soit ôtée. Parce que comme le disaient nos sages, nous disions tout à l'heure, il y a sur la terre seulement deux villes, Babylone et Jérusalem. Et à la fin, lorsque s'achève justement cette histoire biblique, il n'y a plus qu'une seule ville, c'est-à-dire le pays de Babylone. Babylone, qui à cette époque-là, nous l'avons dit tout à l'heure, était à son apogée. La civilisation d'où Abraham sort était une des civilisations les plus brillantes du monde, de l'époque. Ça correspondrait, si vous voulez, qu'est-ce que je veux dire, aux États-Unis d'aujourd'hui, quelque chose comme ça. Et le Seigneur dit à Abraham, quitte cette civilisation brillante, quitte cette vie confortable et facile dans laquelle tu es installé, qui n'est pas la terre promise. Les hommes ont voulu la considérer comme la terre promise, ils ont voulu se faire un nom. Ça veut dire dans le langage biblique, ils ont voulu être leur propre maître. Nommer quelqu'un, c'est prendre un pouvoir sur lui. Quand Dieu nomme les animaux, il prend un pouvoir sur eux. Parce que Dieu a voulu que l'homme domine sur les animaux, alors il amène les animaux vers l'homme dans le livre de la Genèse pour qu'il leur donne un nom. Ça veut dire qu'ils prennent pouvoir sur lui. Et Dieu est aussi celui qui nomme l'homme. Et notamment lorsqu'il prend un homme, il l'appelle, souvent Dieu change son nom, lui donne un nom nouveau, symbole que maintenant il appartient à Dieu. Nous trouvons ça par exemple le chapitre 43 du livre du prophète Ésaïe, où le Seigneur dit ceci, « Ainsi parle le Seigneur qui t'a créé, qui Jacob, celui qui t'a formé Israël. Je t'appelle par ton nom. » Et parce que je t'appelle par ton nom, tu m'appartiens. Et Dieu va changer le nom d'Abraham, il va lui donner un nom nouveau, Abraham. Et il dit, je rendrai ton nom grand, je te ferai un nom, je te nomme. Mais les hommes de Babel ont voulu se faire un nom, ils ont voulu se nommer eux-mêmes, ça veut dire qu'ils ont voulu être leur propre maître. Et la civilisation de Babel, nous le disions tout à l'heure, c'est une civilisation d'où Dieu est exclu, où l'homme ne veut pas être soumis à Dieu, il veut être son propre maître. Et à cause de cela, Abraham quitte Babel et il se met en route vers le pays promis. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit ceci, cette ville, ce pays promis, c'est une ville. La cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et au chapitre suivant de l'Épître aux Hébreux, nous retrouvons justement cette Jérusalem céleste. Il nous est dit ceci, vous ne vous êtes pas approchés du mont Sinaï, mais de la cité de Dieu, de la Jérusalem céleste. Il y a donc deux Jérusalem, une Jérusalem céleste et une Jérusalem terrestre. Et les sages ont dit ceci, en interprétant le psaume 122, « Tu es bâti comme une ville dont les deux parties sont solidement unies. » Et là, nous retrouvons un petit peu cette même idée dans les textes du Nouveau Testament que nous avons cités dans l'Épître aux Hébreux, une ville inébranlable. Et les sages ont dit, ce qui se passera au dernier jour, c'est l'accomplissement de cette prophétie. La ville de Jérusalem, dans ses deux parties, sera réunifiée. Il y a quelques jours, deux jours très exactement, nous commémorions la réunification de Jérusalem il y a 40 ans, lors de la guerre des Six Jours. Pendant 19 ans, entre 1949 et 1967, la ville de Jérusalem avait été coupée en deux par une frontière qui interdisait tout contact entre ces deux parties de la ville. Et ce jour, j'évoquais avant-hier à Lausanne comment justement, quelques jours après cette victoire éclair d'Israël, cette frontière avait disparu et Jérusalem avait été réunifiée. Et lorsque cet événement avait eu lieu, le peuple d'Israël avait l'impression justement que c'était cette prophétie du psaume 122 qui était accomplie. « Jérusalem, tu es bâti comme une ville dont les deux parties sont réunifiées. » Mais il y a encore une dimension à venir. Et les sages ont dit ceci au dernier jour, « La Jérusalem céleste descendra du ciel pour s'unir avec la Jérusalem terrestre, et les deux n'en feront plus qu'une. » Et la prophétie sera accomplie. Et lorsque nous lisons justement le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, chapitre 22, nous voyons la réalisation de cette prophétie. Babylone a disparu, nous l'avons vu tout à l'heure, et Jean voit descendre du ciel la Jérusalem céleste, qui vient s'unir avec la Jérusalem terrestre, pour que justement les deux villes n'en fassent plus qu'une. Alors, il y a un autre texte aussi qui nous parle de cette réalité. C'est le texte d'Ésaïe 54 que nous avons lu tout à l'heure. Malheureuse battue par la tempête que nul ne console. Et là, il est question de la construction, la reconstruction de Jérusalem. Le prophète prophétise au moment où Jérusalem a été détruite et déportée en Babylonie, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Et dans ce temps, le Seigneur dit, eh bien que s'il est vrai que pour l'heure, Jérusalem est détruite, elle est comme cette malheureuse battue par la tempête, il viendra un temps où Dieu lui-même va reconstruire Jérusalem. Et nous avons la même pensée que dans l'Épître aux Hébreux, il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et Dieu dit ceci, « Je construirai les murailles de Jérusalem, les remparts de Jérusalem, avec des pierres précieuses. » Et ces pierres précieuses, elles apparaissent d'une manière très particulière, dans la suite de ce récit, ce sont les fils de Jérusalem. Ça veut dire que Dieu va construire cette Jérusalem-là, non pas avec des pierres mortes, mais avec des pierres vivantes. Et là, il faut savoir aussi que le prophète fait un jeu de mots à partir du mot « pierre » et du mot « fils » en hébreu. Parce que ces mots en hébreu sont voisins. Des pierres, ça se dit avanim. Et des fils, ça se dit banim. C'est presque pareil. Et voyez-vous, Jean-Baptiste fait le même jeu de mots. Lorsque les gens d'Israël, le peuple d'Israël, les Israélites viennent vers lui pour être baptisés dans le Jourdain. Il leur dit ceci: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Ne dites pas en vous-même: nous avons Abraham pour père. Car je vous dis que de ces avanimes, de ces pierres, Dieu peut susciter des banimes, des fils à Abraham. Voyez-vous, il y a le même jeu de mots. Alors la nouvelle Jérusalem va être construite par des pierres précieuses. Et ces pierres précieuses vont être des hommes, des fils de Jérusalem, qui seront comme des pierres précieuses qui ont été travaillées, qui ont été sanctifiées, qui ont été taillées pour pouvoir construire justement le rempart de la nouvelle Jérusalem. Et voyez-vous, il y a quelque chose de très intéressant dans cette notion justement de fils, les fils de Dieu. Les banim, comme nous disions tout à l'heure. Ben, c'est aussi un mot qui a une racine proche du mot bâtiment, construction, bait en hébreu. Ça veut dire des fils, ce sont des êtres qui ont été construits. Et les parents sont les constructeurs du fils, des fils. Et ça, c'est très important. Je pourrais vous parler longtemps sur ce thème-là, mais je le fais très rapidement. Je l'effleure seulement. Les parents ne sont pas quittes quand ils ont donné la vie à l'enfant. Et c'est le drame de notre temps. Beaucoup d'enfants, hélas, dans notre Europe déchristianisée du XXe siècle, n'ont pas plus de parents, ils n'ont que des géniteurs, si vous voyez la différence que je fais. Quand on a donné la vie physique à l'enfant, on n'en est pas quitte. Il va falloir maintenant construire l'enfant pierre après pierre, comme on construit un bâtiment. Et l'on construit à son image, et l'on construit notamment avec la parole de Dieu. Et les sages d'Israël nous disent: chaque jour, il faut apprendre à l'enfant une parole de Dieu. Chaque jour, l'enfant doit apprendre un nouveau verset. Et c'est la raison pour laquelle, encore aujourd'hui, chez les religieux israéliens, vous avez des gens qui sont capables de vous réciter des passages entiers de la Bible par cœur. Et voyez-vous, chaque jour, on ajoute une pierre. Et cette pierre, c'est un verset de la Bible. Et cette pierre, ce verset de la Bible, il est considéré comme une pierre précieuse. Et l'enfant est invité à faire un collier de pierres précieuses. Chaque jour, il ajoute à son collier une nouvelle pierre, jusqu'à ce qu'il ait un collier dont il puisse être fier, qui est justement comme cette muraille dont parlait justement le prophète dans le chapitre 54 que nous avons lu tout à l'heure. Et alors il y a aussi un texte très intéressant dans le Talmud qui nous dit ceci: celui qui enseigne au fils de son prochain un verset de l'Écriture, cela lui est considéré comme s'il l'avait lui-même engendré. Voyez-vous, on engendre pour la vie d'en bas, mais on engendre aussi pour la vie d'en haut. Et comment le fait-on? En enseignant la parole de Dieu. Et c'est pourquoi justement il est tellement important que les parents transmettent à leurs enfants la parole de Dieu. Je viens d'une vieille famille huguenote du Poitou, et nos ancêtres ont survécu, ont réussi à traverser cette période des persécutions qu'a suivi la révocation de l'édit de Nantes, alors que toute pratique de la religion réformée était interdite, alors que les curés pointaient pour être sûrs que les parents comme les enfants venaient à la messe dominicale et que les enfants étaient envoyés au catéchisme. Et Madame de Maintenon espérait qu'en une génération, le protestantisme aurait disparu de France. Et il subsiste encore aujourd'hui, pourquoi? Parce que justement, lorsque les messes et autres choses semblables étaient terminées, les parents huguenots prenaient leurs enfants, ils fermaient les portes de la maison, et le père sortait de la cachette la vieille Bible, et il l'ouvrait, et il partageait avec ses enfants le pain de vie, les pierres précieuses. Et c'est grâce à cette transmission de génération en génération, cette construction de fils, comme cela est écrit dans le psaume 78, ce que nos pères nous ont transmis, ce qu'ils nous ont appris, nous le redirons à nos fils qui se lèveront pour le retransmettre à leurs fils aussi, afin que la dernière génération, celle dans laquelle nous sommes, ne soit pas une génération indocile et rebelle, comme l'ont été leurs pères quand ils étaient dans le désert. Cette génération que j'ai eue en horreur et dont j'ai dit, ils n'entreront pas dans mon repos. Tes fils seront disciples de l'Éternel. Et vous remarquerez que dans la Bible, combien justement cette tâche de transmettre la parole de Dieu est centrale. Par exemple, Paul dira ceci à Timothée, « Toi, mon enfant !» Paul était l'enfant, plutôt Timothée était l'enfant de Paul, parce que Paul l'avait engendré à la vie spirituelle. Il lui avait transmis la parole de Dieu par laquelle ce garçon s'était converti. Et il était né de nouveau, et son père spirituel était Paul, celui qui enseigne au fils de son prochain. Un verset de l'Écriture, cela lui est considéré comme s'il l'avait lui-même engendré. Et Paul se réfère à ce texte des sages qu'il connaissait. À Philémon, auquel il renvoie son esclave qui s'est enfui, mais qui s'est converti au contact de Paul, Onésime, il lui dit, « Je te renvoie, Onésime, mon enfant que j'ai enfanté dans les chaînes. » Aux Corinthiens qui se donnent toutes sortes de maîtres qui les égarent, il dit, « Combien même vous auriez 10 000 maîtres, vous n'avez qu'un seul père, parce que c'est moi qui étais le premier à vous transmettre la parole de Dieu. C'est moi qui vous ai enfanté à la vie de l'Esprit. Tes fils seront disciples de l'Éternel. » Et alors justement, il faut longtemps pour construire un fils. Il faut le tailler comme on taille une pierre précieuse. Et c'est avec ces pierres précieuses, ces fils qui ont été taillés, que le Seigneur construit cette Jérusalem qui a des solides fondements et celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Revenons quelques instants sur ce verset. Nous avons parlé des pierres précieuses, les fils, tes fils. Mais le texte d'Hébreux nous dit, cette cité de Jérusalem, elle a aussi de solides fondements. Alors, il nous faut parler quelques instants des fondements. Le texte d'Ésaïe 54 nous parle aussi des fondements de la nouvelle Jérusalem. Et Hébreux nous parle que ces fondements sont tellement solides que lorsque tout sera ébranlé, notamment la cité des hommes Babylone, la cité de Dieu Jérusalem ne sera pas ébranlée parce qu'elle a des solides fondements. Il y a à Jérusalem une pierre qui est vénérée, qu'on appelle Even Ashtia. On la considère comme la pierre de fondement. Cette pierre, aujourd'hui, elle est abritée par le dôme du rocher que les musulmans vénèrent aussi. Ils ont repris cette tradition de la Bible. La plupart des archéologues pensent que cette pierre, cette énorme pierre, était l'aire d'ornant le Yévoussien, sur lequel David a offert un sacrifice et qui est devenu le lieu très saint qui se trouvait dans le temple de Jérusalem. La pierre de fondement. Et il y a de très nombreux textes qui nous parlent de cette pierre. Le Seigneur dit ceci dans le chapitre 24 du prophète Ésaïe, « Voici, je place en Sion une pierre choisie, précieuse. » Et tous ceux qui la prendront pour appui, tous ceux qui viendront s'y réfugier, seront à l'abri, ils n'auront pas hâte de fuir. Le prophète Zacharie nous parle aussi de cette pierre. Il nous dit que au temps de la fin, Jérusalem sera comme une pierre lourde à soulever. Toutes les nations essaieront de soulever cette nation, mais ils se meurtriront sur elle, parce que c'est une pierre qui est inébranlable. Le psaume 118 nous parle aussi de cette pierre. Il nous dit que cette pierre, c'est la pierre de fondement. La pierre autour de laquelle se construit cette nouvelle Jérusalem, cette ville de Dieu. Mais les bâtisseurs ont eu la tentation de rejeter cette pierre. La pierre qui a été rejetée par ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Selon les sages, cette pierre n'était autre que la pierre de Bethel, la pierre sur laquelle Jacob avait fait son chevet quand il fuyait le pays d'Israël et qui a ensuite été transporté à Jérusalem. C'est une légende, bien sûr. Mais enfin, ça nous montre l'importance de cette pierre. Cette pierre a aussi été assimilée avec Abraham. Ésaïe 51, il nous a dit ceci, « Portez le regard vers le rocher dont vous avez été tiré. » Abraham est appelé le rocher, le fondement du peuple. C'est sur Abraham que le peuple a été construit. Et sur cette pierre d'Abraham, il y avait 12 fondements. Les 12 fils de Jacob, qui étaient les 12 fondements de la nation d'Israël, parce qu'ils étaient fils d'Abraham, le rocher. Et voyez-vous, nous retrouvons cette image de la pierre dans le Nouveau Testament aussi, c'est très intéressant. La pierre de fondement, la pierre rejetée par ceux qui bâtissaient, elle est identifiée avec Jésus, le Messie. Ce n'était pas non plus une innovation, parce que déjà les sages d'Israël avaient dit cela. Et j'ai parlé de la pierre de Bethel tout à l'heure, et il nous est dit ceci, que lorsque Jacob a réalisé que cette pierre de Bethel n'était autre que la porte de cieux, le fondement sur lequel se trouvait cette échelle qui permettait d'accéder à la Jérusalem céleste, qui faisait la liaison avec la cité de Dieu, il a pris cette pierre, il l'a ointe d'huile. Et ça se dit « machar » en hébreu, d'où le mot « machiar », le Messie. Et les sages ont dit « la pierre de Bethel n'est autre que le Messie parce qu'elle a été ointe d'huile par Jacob. » Et les sages ont dit aussi « parce que cette pierre est le Messie, cette pierre sera rejetée par ceux qui bâtissent, et notamment justement par les nations qui chercheront à la rejeter. » Mais Dieu mettra cette pierre en Sion, cette pierre précieuse, et toutes les nations viendront se meurtrir sur elle. Et maintenant, quand vous lisez ce que Paul nous dit dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, vous retrouvez aussi cette idée. Il dit ceci, vous, les croyants, édifiez-vous comme des pierres vivantes. Vous êtes des pierres précieuses. Et vous avez été établis sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus lui-même étant la pierre d'angle, la pierre fondamentale. Et alors, quand nous regardons justement la vision de la nouvelle Jérusalem dans l'Apocalypse, nous voyons aussi quelque chose de très intéressant. La nouvelle Jérusalem est aussi construite avec des pierres précieuses. Les murailles de la Jérusalem nouvelle sont construites avec des pierres précieuses. Il y a dans cette Jérusalem 12 portes. Et sur les 12 portes, il y a le nom des 12 patriarches, des 12 fils de Jacob. Et sur les fondements de ces portes, il y a le nom des 12 apôtres de l'agneau. Vous avez été établis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et maintenant, il y a une chose encore très intéressante à noter lorsque nous parlons de cette Jérusalem nouvelle, c'est que ces portes sont aussi des pierres précieuses. Il y a 12 pierres précieuses qui correspondent à ces 12 tribus d'Israël. L'identification de ces pierres précieuses nous est donnée. Vous le relirez, vous en relirez la liste, je ne le fais pas ce soir, parce que ce serait trop long. Mais si vous comparez cette liste avec un autre texte, celui d'Exode, je vais vous dire exactement le texte d'Exode, se retrouve ici dans mes notes, voyons, c'est Exode 29, versets 17 à 21, il est question du grand prêtre qui entrait dans le lieu très saint une fois par an, avec ses habits sacerdotaux, et il portait sur sa poitrine ce qu'on appelait le pectoral du jugement. Et sur le pectoral du jugement, il y avait 12 pierres précieuses, chacune portant le nom d'une des 12 tribus d'Israël. Et si vous regardez justement la liste qui est faite de ces pierres précieuses, vous constatez qu'elle est exactement la même que celle qu'on trouve dans l'Apocalypse. Pectoral du jugement. Et là, c'est aussi quelque chose de très intéressant. Il y a l'idée d'un jugement. Et voyez-vous, nous avons parlé tout à l'heure de ces deux cités, Jérusalem et Babylone. Et quand Jérusalem descend du ciel, cette nouvelle Jérusalem, qui a pour fondement pierre d'angle, Jésus, aucun autre au fondement ne peut être posé que celui-là. Et vous avez ce texte aussi de Matthieu, où le Seigneur dit à Pierre, quand il lui dit, mais qui dit-on que je suis? Pierre répond, tu es le Messie et le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit, tu es heureux, Simon Bar-Yochna, parce que ce n'est pas la chair ni le sang, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas par l'intelligence humaine que tu as compris ça, c'est par une révélation de mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es une pierre. Et sur ce rocher, voyez-vous, il y a une différence dans le grec. Pierre n'est rien qu'une pierre. Et il va être établi sur un rocher. Quel est ce rocher? Ce que tu viens de confesser, Pierre. Tu es le Messie et le Fils du Dieu vivant. Tu viens de poser le fondement. Aucun autre fondement que celui-là ne peut être posé. Et là, le fondement de l'Église et de la Jérusalem nouvelle, c'est cette affirmation, Jésus est le Messie et le Fils du Dieu vivant. Et les apôtres sont des colonnes, des pierres. Dans l'Épître aux Galates, il nous est dit qu'il y avait 3 apôtres qui étaient considérés comme des colonnes sur lesquelles justement l'édifice s'appuyait, les pierres vivantes qu'étaient les fils venaient s'appuyer. Alors, ce n'est qu'au dernier jour, nous dit le chapitre 54 d'Ésaïe, que ces pierres précieuses étincelleront dans toute leur splendeur. Israël est un des pays où on travaille le diamant. Il n'y a pas de diamant en Israël, mais c'est un pays qui travaille le diamant. Il m'est arrivé à plusieurs reprises de visiter des usines de taille de diamants en Israël. Et quand on voit justement un diamant brut, vous savez, pour un profane, ce n'est rien qu'un vulgaire caillou. Vous le verriez par terre, vous ne le ramasseriez pas. Il faut être un spécialiste pour savoir que ça, c'est un diamant. Et avant, quand vous voyez le diamant brut et le produit fini, vous dites, mais c'est pas possible, ça, c'est ça. Or, pour arriver de ça à ça, il y a tout un processus, un travail phénoménal, de taille extrêmement minutieux, extrêmement précis, des heures de travail. Et ce n'est qu'à la fin que le produit fini étincelle de 1000 feux. Le Seigneur veut nous prendre comme ces diamants, ces pierres brutes. Rien ne nous distingue. Et ce n'est qu'au dernier jour, quand la Jérusalem descendra du ciel, nouvelle, que nous étincellerons comme des diamants parce que le travail de Dieu aura été accompli en nous. Alors justement, il y aura une autre réalité ce jour-là. C'est que ces pierres précieuses, et nous disons cela aussi, Jésus dit ceci à ses apôtres, au renouvellement de toutes choses, vous serez assis sur 12 trônes. Pour juger les 12 tribus d'Israël. Et dans l'Apocalypse, Jésus dit ça à chaque croyant Celui qui vaincra s'assiera avec moi sur son trône. Le trône, c'est l'endroit du jugement. Et quand ce que nous sommes sera pleinement manifesté au dernier jour, la cité des hommes, Babylone, sera jugée, le pectoral du jugement. Il y aura un jugement qui sera prononcé sur la grande prostituée et sur tous ceux qui seront restés au sein de cette grande prostituée qu'est la grande Babylone. Et la grande Babylone sera détruite pour que les diamants qui auront été formés pendant toute cette période puissent briller de mille feux. Et enfin, un dernier point, j'en aurai terminé. Dans cette Jérusalem nouvelle, il nous est dit ceci. On y amènera la gloire des nations. Ces portes ne seront jamais fermées, parce qu'au travers de ces portes, on y apportera la gloire des nations. Et finalement, c'est tout le problème sur lequel nous laisse justement notre méditation de ce soir. Deux villes. Babylone ou Jérusalem. Et tout homme est citoyen d'une de ces deux villes. Ou bien tu es citoyen de Babylone, ou tu es citoyen de Jérusalem. Et si tu es citoyen de Jérusalem, tu es en marche, comme l'étaient les patriarches dont nous parlions tout à l'heure, vers la cité qui a des solides fondements, dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et par conséquent, tu te reconnais, tu te sais, tu te veux étranger et voyageur sur la terre. L'es-tu ? C'est la première question. Autrement, tu subiras le sort de Babylone. Tu subiras le sort qui a été celui de Lot, qui s'était installé à Sodome, sauvé mais au travers du feu. Lui aussi, il a quitté Sodome, sauvé mais les mains vides, tandis qu'Abraham est rentré dans la Jérusalem céleste avec toute la gloire qu'il avait acquise. Et la deuxième question, c'est celle-ci justement, cette question que posait cette femme qui disait « Pour vous aussi, l'heure passe pendant qu'il en est temps. Dois-je paraître les mains vides ? Faut-il que les mains vides, je rencontre mon Sauveur ?» Alors, est-ce que tu es cette pierre précieuse avec laquelle Dieu va construire la Jérusalem céleste ? Si oui, il faut que tu lui apportes des matériaux précieux. Quelle gloire as-tu ? Et là, justement, à chacun d'examiner sa vie, qu'est-ce qui me fait honte ? Si je devais paraître devant le Seigneur, comme disait cette femme dans ce cantique, est-ce que tu rougirais de tes œuvres ? Ou est-ce que tu serais fier de tes œuvres ? Oh, bien sûr, il y aura pour chacun d'entre nous des choses dont nous aurons honte. C'est une évidence. Nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas le problème. Mais aussi, il faudrait qu'il y ait des choses dont nous soyons fiers. Nous puissions dire, Seigneur, tu m'avais donné tant de talents, tu vois, voilà, je les ai fait fructifier. Je n'ai pas fait grand-chose. J'ai peut-être simplement donné un verre d'eau à un de ces petits qui est ton disciple. Et le Seigneur dit, eh bien, tu ne perdras pas ta récompense à cause de ça. J'ai peut-être donné à manger à celui qui avait faim, soif à celui qui avait, à boire à celui qui avait soif. J'ai vêtu celui qui était nu. Je suis allé visiter celui qui était en prison. Eh bien, prends possession du royaume qui a été préparé depuis la fondation du monde pour tous ceux justement qui ont réalisé ces choses. Tes œuvres vont entrer dans la Jérusalem céleste. Tu pourras en être fier. Je vais construire la Jérusalem céleste avec ces pauvres œuvres que tu as faites, si imparfaites, si maladroites, si limitées, mais ça ne fait rien, je l'ai transfiguré comme le diamant. Pour toi, c'est qu'un vulgaire caillou, mais tu vois, moi je vais le transformer et ça va être une des pierres de cette muraille. Malheureuse, battue par la tempête, je garnirai tes créneaux d'escarboucle et tes fondements de saphir. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Est-ce que tu seras une de ces pierres de cette muraille avec lequel le Seigneur construira cette Jérusalem qui brillera dans la Jérusalem céleste qui descendra du ciel, qui s'unira à la Jérusalem terrestre et qui ne sera plus jamais ébranlée. Eh bien, que chacun s'examine soi-même et qu'il réponde à cette question pendant qu'il en est temps. Comme disait ce cantique, il en est encore temps. Alors, eh bien, il est temps de laisser les vanités de ce monde pour s'attacher aux choses qui dureront, l'essentiel. Ces pierres précieuses avec lesquelles le Seigneur construira cette muraille. Saphir, escarboucle, pierres précieuses, diamants, or, perles. Voilà ce que le Seigneur veut que nous lui apportions. On y apportera la gloire des païens, la gloire des nations. Amen.